C'est votre nature sur France Bleu Cotentin. Emmanuel Gouache.
C'est votre nature. Ce matin, on va parler d'architecture avec le CAUE, avec Emmanuel Fauché, le directeur du CAUE de la Manche. Le CAUE, conseil en architecture, que vous soyez une entreprise, que vous soyez...
un particulier, une collectivité.
C'est pour tout le monde.
Oui, tout à fait.
Vous conseillez tout le monde pour l'architecture,
des projets de construction, des permis d'aménagement, de construction, des permis de construire, oui.
C'est ça. Vous êtes d'ailleurs présent aujourd'hui, peut-être qu'on peut en parler, dire quelques mots.
Rencontre de patrimoine de la Manche, voilà, qui ont lieu
au Haras de Saint-Lô,
aujourd'hui et demain, avec une cinquantaine d'exposants, des associations et des professionnels. Et on accueille tous les visiteurs qui le souhaitent et on va donner tout au long du week-end des conseils en paysage, en jardin, en extension pour sa maison. Et puis il y a un tas d'autres acteurs du patrimoine qui seront présents pour aussi conseiller les visiteurs.
L'occasion en tout cas de vous rencontrer, Emmanuel, puisque vous serez là-bas un petit peu plus tard dans la journée.
Exactement.
Jusqu'à 10h, c'est votre nature sur France Bleu Cotentin.
Alors l'architecture d'hier et d'aujourd'hui avec vous Emmanuel et puis Florent Leroux-Villois qui est avec nous également à vos côtés, que vous nous avez amené ce matin, qui travaille à la ville de Cherbourg et à la communauté d'agglomération du Cotentin et qui va également nous parler d'architecture. Mais l'architecture dans son sens un peu global, dans son environnement, alors comme d'habitude vous m'avez envoyé votre petit texte, alors je vais le lire. Imhotep, Albert Tilléon, Baptista, Jean Prouvé, Charlotte Perriand, Pierre Pinsard, Hadid, Virto Vitar, je prononce peut-être pas très bien tout, Jean Nouvel, Christian de Porzamparc, Guillaume Aubry, ce sont tous et toutes des architectes, alors que on a l'impression qu'ils construisent plutôt des grands bâtiments, des stades, des salles de concert, des musées, construisent également l'habitat dans lequel nous vivons, nous toutes et nous tous, des logements individuels à la ville, dans des lotissements, dans des villages, dans des bourgs, à la campagne également. Quelle forme donc pour notre lieu de vie, de développement, de ressources, de détente, d'accueil, de réception, c'est-à-dire notre habitat, un lieu véritablement fait pour et avec nous, en lien avec le paysage qui nous entoure, ça c'est pas toujours le cas, on va, j'imagine, en parler, mais finalement c'est quoi l'architecture de la cité jardin au logement collectif ? Nos bâtiments d'habitation viennent s'insérer dans le paysage que nous choisissons quelquefois, pas tout le temps, c'est vrai aussi, on peut en discuter. Nous menons la vie dure à la nature qui nous accueille et pourtant elle regorge d'avantages et de qualités si nous savons l'entendre et l'écouter. L'architecture est avant tout une aventure humaine dans laquelle il ne faut jamais oublier le paysage, les habitants et les artisans. Donc c'est ça pour vous, l'architecture, c'est avant tout une histoire de relation entre les uns et les autres et avec l'environnement finalement.
C'est une histoire collective, effectivement. La totalité des matériaux qu'on a utilisés pour construire, on les a prélevés dans la nature, le bois. Si on prend les petites maisons d'Auderville, on est au-dessus de Goury, et on regarde ces petites maisons anciennes qui ont un pignon pas très très épais. Comment est-ce qu'on les a dimensionnés ? Bah, très simplement, un forestier a coupé un bûcheron, a coupé un arbre, et en tombant et en mesurant l'arbre, on a eu la largeur de la maison, parce qu'à l'intérieur de l'arbre, on a débité les éléments qui allaient servir de panne pour les planchers et les charpentes. Et donc la totalité en fait des éléments qu'on a utilisés pour construire aujourd'hui ont été prélevés du sol et ont donné la couleur en fait à nos villages, à nos bourgs et à nos paysages. Mais une couleur de matériaux qui ont été issus d'un territoire desquels ils ont été prélevés. Le monde moderne a souvent fabriqué une manière liée à l'industrie, en fait, pour augmenter la fabrication, et bien souvent, malheureusement, en diminuant la qualité des éléments construits, on ne s'est plus posé la question de ce lien au territoire. Et le fait de ne jamais oublier qu'on s'installe dans un paysage, et qu'on le modifie durablement, parfois violemment, parfois un peu plus doucement, qu'on le fait dans le lien avec des habitants, avec des usages, et aussi avec des professionnels que sont les artisans, qui sont pour moi une ressource inestimable dans la manière avec laquelle on peut construire, et ben c'est se reconnecter tout simplement avec ce qui nous entoure. L'intelligence du savoir-faire, l'intelligence du geste, prévaut, de mon point de vue, sur un certain nombre de démarches intellectuelles, quantitatives, bah, qui finalement permettent mathématiquement de calculer des résultats, mais dans les faits, qui valorisent pas toujours un contexte.
Et se reconnecter avec son environnement, c'est peut-être respecter, le respecter peut-être un petit peu plus, et respecter peut-être un petit peu plus la nature également. C'est aussi la raison pour laquelle on parle d'architecture dans C'est votre nature, de sa relation, de la relation de l'architecture avec la nature, et on va continuer à en parler jusqu'à 10h sur France Bleu Cotentin.
Appelez-nous, c'est votre nature sur France Bleu Cotentin. 02 33 23 13 23.
On est ensemble effectivement avec C'est votre nature, avec le CUE, le Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement, représenté par son directeur ce matin, Emmanuel Fauché, qui est avec nous comme régulièrement sur l'antenne de France Bleu Cotentin, notamment dans C'est votre nature. On parle d'architecture d'hier et d'aujourd'hui et de son intégration, on va dire, de cette architecture, de sa réflexion, la réflexion qu'on peut avoir autour de l'architecture en relation avec la nature. On a cité plein d'architectes au début de l'émission tout à l'heure. Je me demandais, parmi tous ces noms, lequel ou laquelle de ces architectes que l'on a nommés était le plus proche ou la plus proche de la nature.
Alors moi je penserais, alors je vais en citer deux là. Imhotep à l'origine, parce que
un Égyptien
il y a 5000 ans, voilà, et travaillant avec Excréon la pierre. Je pense à Charlotte Perriand, en fait. Charlotte Perriand, qui est une architecte du 20e siècle, qui a quasiment couvert le 20e siècle. Elle est née au début du 20e siècle, elle est morte en 1999. Elle a travaillé notamment sur l'hôpital franco-américain avec Paul Nelson à Saint-Lô. Et je pense à des aménagements qu'elle a pu faire aux arcs, où ces immeubles d'habitation, finalement, épousent une pente, s'insèrent dans un paysage, et dans lesquels vous ne retrouvez pas un escalier. C'est-à-dire, c'est une succession de pentes qui permettent d'accéder aux appartements qui sont de part et d'autres, et dans le lien, alors que parfois on casse un coteau, on creuse un trou pour installer un bâtiment, là elle a installé une espèce de grande file longiligne comme une épine dorsale, une colonne vertébrale dans un paysage, et ça fonctionne très très bien dans les vues et dans l'organisation. Et je pense à Guillaume Aubry, c'est un jeune architecte français qui est plus connu dans notre territoire pour une petite cabane qu'il a aménagée à Fermanville, dans le lien avec le paysage qui l'entourait, c'est-à-dire que cette cabane était existante, il l'a réhabilitée et il l'a transformée comme un lieu. C'est pas un musée, mais quand on la voit, c'est un objet intégré dans le paysage et dans le lien au paysage. Je rebondis sur un sujet qu'on a eu dans les informations tout à l'heure, la usine utopique avec son petit camion culturel qui voyage dans les cours d'école. Et c'est vraiment le
du côté de Saint-Lô.
Voilà, du côté de Saint-Lô, et c'est vraiment ce sens-là qu'on peut donner aux choses, c'est de refaire le lien à travers le regard qu'on peut avoir sur les choses qui nous entourent, là où on nous en a souvent extrait, et ce qui fait qu'un certain, enfin, des gens dans la population, ici et ailleurs, se sentent exclus, en fait, de ces discussions sur l'aménagement du territoire. Donc Charlotte Perriand, Guillaume Aubry, mais il y en a plein d'autres. Il y a des tas de gens, en fait, qui construisent avec les matériaux qui les entourent, dans des paysages, qui s'insèrent bien dans des paysages, dans le lien avec un lieu de vie, et puis qui parlent d'économie de ressources. Parce que finalement, construire, c'est utiliser de l'eau, mais comment est-ce qu'on peut aussi l'économiser?
Alors, c'est intéressant, parce qu'à chaque fois, on se rend compte que toutes ces questions, elles renvoient à tout un tas de questions qui sont importantes. La nourriture, par exemple, de la même façon, on nous a évacué de la question, en fait, de la réflexion autour de qu'est-ce qu'on mange, comment on produit ce qu'on mange et à quoi ça sert dans notre organisme, en quelque sorte. C'est la même chose finalement pour l'architecture. On nous a éloigné de la question, en fait.
Tout à fait. Alors même qu'au début, il y a des modèles qui ont été fabriqués dans nos territoires. Je pense aux cités ouvrières ou aux cités jardins, Florent, qui intégraient, en fait, ces données-là, en fait.
Florent Le Rouvillois, je rappelle que vous travaillez à la mairie de Cherbourg et à la communauté d'agglomération également du Cotentin, et vous travailler sur la relation entre les habitants et leur habitat, on va dire.
Exactement, je travaille effectivement sur ce lien entre les personnes et l'endroit où ils vivent, où ils habitent. Alors effectivement, Emmanuel parle de cité-jardin. On a des très beaux exemples à Cherbourg, notamment rue du Docteur Carré, tout à côté de l'hôpital maritime, où ces maisons ont été construites dans les années 20. Et leur particularité, c'est qu'elles ont des très longs et très grands jardins. Alors pourquoi elles ont des si grands jardins? C'est parce que ce jardin, il avait vocation à produire la nourriture pour des familles nombreuses qui avaient, elles, voilà, qui occupaient les maisons. Mmh. Et donc, la surface du jardin, elle avait été calculée pour produire suffisamment de légumes pour nourrir tout le monde et pour produire un 13e mois de revenus, en fait.
Et ça s'appelle la Cité Jardin. C'est un modèle, la Cité Jardin, qui existe partout en France ou...
Alors, la Cité Jardin, c'est un modèle qui a été inventé en Angleterre, au moment, justement, où l'Angleterre s'industrialisait et s'urbanisait très vite. Et ça posait déjà à l'époque des problèmes de pollution, de santé. Et donc il y a notamment une personne qui s'appelle Ebenezer Howard qui a créé ce concept de cité-jardin. Et l'idée c'était de construire, enfin de penser l'unité d'habitation, la maison, mmh. en lien avec son propre jardin, en lien avec des espaces publics. Qui avaient eux aussi vocation à accueillir de la verdure. Aujourd'hui, on dirait de la biodiversité, mais c'était voilà, de la nature en ville, en fait.
Ouais.
Et puis, en lien aussi avec les équipements qui font la vie quotidienne, donc l'école, le commerce, le lieu de travail. Et donc, là, voilà, c'est un concept, en fait, anglais et qui s'est essaimé à travers le monde, en fait. Des cités-jardins, on en retrouve un peu partout dans le monde. Et notamment, à Cherbourg, on a des cités qui se rapprochent de ce modèle de la Cité Jardin, et notamment rue du Docteur Carré, et puis également rue de la Pérouse, au-dessus du lycée Millet. On a un très bel ensemble. Alors, dans les deux cas, c'est du logement social. Hein, mmh. Un très bel ensemble où à la fois la maison est très qualitative, ça a été confié à des grands architectes, hein, René Lévesque pour la rue du Docteur Carré, et je crois que c'est Monsieur Bruckhardt, un architecte de la reconstruction pour la rue de la Pérouse. Et au-delà du bâtiment, c'était pensé en lien avec un jardin. Chacun avait un jardin privatif. Mmh. Et puis des espaces publics très, très qualitatifs.
Ça fait écho un petit peu au jardin ouvrier, peut-être, d'une ouais. certaine façon. Et effectivement, ça permet de se projeter peut-être dans le futur, parce qu'on se rend bien compte à quel point ce genre de réflexion, elle est importante aujourd'hui au vu des gageures, des difficultés qui nous attendent peut-être dans les années à venir. C'est votre nature jusqu'à 10h. On parle d'architecture aujourd'hui et du lien de la nature avec l'architecture, nos habitats. Est-ce qu'on a vraiment pensé à la nature quand on a construit ces dernières années l'habitat, nos habitats? C'est la question que je vous pose, Emmanuel Fauché du CAUE de la Manche.
Pas vraiment. Enfin, on a essayé de répondre à la nécessité d'habiter. Donc, en plus, c'est un modèle social. C'est-à-dire que accéder à la propriété, c'est un peu un gage de réussite et de richesse.
Ouais.
Mais au-delà de ça, en fait, on a oublié qu'on s'installait dans des endroits, dans des lieux, dans des paysages, dans des villes, dans des bourgs, et que on fabriquait, on façonnait, on modifiait un paysage urbain existant et un paysage auquel on s'identifiait avant, c'est-à-dire que la silhouette du village, qui est aujourd'hui bien souvent transformée par une silhouette industrielle ou artisanale en entrée de bourg, a disparu, et le fait de se poser à nouveau les questions. Alors, quand je fais ces remarques-là, c'est pas des critiques, c'est un constat. C'est-à-dire que la vie dans laquelle on est, l'évolution de nos pratiques et la manière avec laquelle on fait les choses, bah, c'est souvent affranchi du lien avec le territoire dans lequel on intervenait.
C'est-à-dire qu'on a oublié le lien avec, encore une fois, la nature, les
paysage,
gens autour, le paysage, etc.
Parce qu'on n'avait pas de limite. On pensait ne pas avoir de limite. Pas de limite en ressources, pas de limite en énergie, pas de limite financière, pas de limite en termes de réflexion, puisque la technologie nous permettait de calculer plus et plus vite sur un certain nombre d'éléments à mettre en place du point de vue
construit,
par exemple.
Mais ça continue, ça, la technologie, elle continue à pouvoir calculer toujours de plus en plus.
Voilà.
Vite, d'ailleurs.
Mais on se pose aujourd'hui les questions du lien et du retour vers notre territoire.
Et vers la nature, donc.
Et vers la nature. Mmh. Le fait de prélever plus correctement, en fait, des ressources pour construire. Le fait de réutiliser, de recycler. Mmh. Parce qu'on parle de recyclage pour des bouteilles plastiques, on parle de recyclage pour un tas de choses de notre quotidien. Mais c'est aussi vrai pour des matériaux de construction, c'est aussi vrai pour des habitats, c'est aussi vrai pour des lieux de vie ou de travail. Et on connaît tous des hangars qui sont disponibles et qui pourraient être utilisés. On connaît tous des maisons qui sont vacantes et qui pourraient être réhabilitées ou effacées ou reconstruites. Mais ces principes-là, qui sont liés à une responsabilité, hein, qui est une responsabilité environnementale, sociale et collective, bah, on l'a souvent oublié. Et en l'oubliant, on a aussi oublié tout un cortège de gens qui sont absolument importants pour nous aider à continuer à y penser, qui sont les habitants, qui sont les usagers, qui sont les artisans, qui sont ceux qui font le quotidien et qui, par leurs gestes, par leurs racines, par leur culture, par leur habitude de travail, sont bien souvent plus en lien avec la nature et l'environnement qu'on l'imagine.
Oui, on a besoin de jardiniers aujourd'hui, on a besoin d'ébénistes, on a besoin de plein de gens comme ça qui sont capables de nous éclairer un petit peu sur cette capacité qu'on doit avoir aujourd'hui, peut-être à réinvestir la nature et à faire en sorte que la nature elle revienne un petit peu chez nous, dans nos jardins aussi,
ces
jardins de nos maisons ou même sur nos balcons.
Ouais. Tout ça parce que ces gens ont un usage quotidien de la ressource et qu'en l'utilisant, ils la voient se modifier. Je pense aux charpentiers, je pense aux jardiniers. Aujourd'hui, la préparation d'un jardin n'est plus du tout la même qu'il y a 25, 30, 40 ou 50 ans.
Ouais.
La question des saisons, on dit il n'y a plus de saison. Enfin, c'est ce qu'on entend dans les jardins. Mais là, effectivement, on se pose vraiment des questions sur l'évolution des territoires. Et il n'empêche qu'ils ont un regard qui évolue dans leur pratique et qui est utile pour nous.
Bon, on va continuer d'en parler. Justement, si vous avez des questions, vous nous appelez au 02 33 23 13 23. Et puis, il nous le dit très clairement. Tout ira mieux demain. C'est Hervé sur France Bleu Cotentin. C'est ce qu'on tente de se dire ce matin également et dans C'est votre nature assez globalement. On a le droit de se projeter en se disant que demain, ça ira mieux et qu'on aura compris certaines choses et qu'on aura mis en place aussi certaines choses pour aller de l'avant. Et notamment en ce qui concerne l'architecture, ce qu'on se dit en quelques mots ce matin depuis qu'on a démarré l'émission, c'est il faut réintégrer la nature, il faut faire avec la proximité. On est également avec Florent Leroux-Villois, chargé de projet renouvellement urbain à Cherbourg et pour la communauté d'agglomération du Cotentin. La question qu'on peut vous poser, c'est quelle est la relation justement avec les habitants, surtout quand... quelle est la relation aussi à l'habitat, surtout quand on n'a pas beaucoup de moyens, qu'on choisit pas forcément l'endroit où on habite? Comment on fait pour avoir un impact sur les choses tout de même, essayer de se réapproprier son habitat et de faire en sorte qu'il soit résilient entre guillemets, quoi.
Oui, une des particularités de Cherbourg, c'est qu'effectivement il y a beaucoup de logements sociaux. Donc c'est une ville qui s'est construite beaucoup après la Deuxième Guerre mondiale et on y a construit beaucoup de logements sociaux. Donc ça veut dire que c'est pas les habitants qui ont construit leur logement, mais en tout cas ils y vivent et pour certains depuis de très longues années. Et donc c'est eux qui plus que les architectes connaissent bien ces lieux-là, les font vivre. Une autre particularité de Cherbourg, c'est que c'était beaucoup construit sur la partie basse, la partie la plus maritime, la plus proche du port évidemment. Et donc quand il a été question de construire du logement social, on s'est intéressé à là où il y avait de la place, et là où il y avait de la place, c'était les pentes. Ce qui fait qu'à Cherbourg, on a une particularité, Emmanuel en parlait tout à l'heure par rapport à une station de ski, c'est qu'on a beaucoup construit dans la pente. Alors ça a des avantages. Ça a des inconvénients, c'est-à-dire que souvent, faut monter des escaliers, faut même monter des escaliers avant même de monter les escaliers qui mènent à son logement. Mmh. Mais ça a des avantages, c'est qu'on profite depuis beaucoup de HLM de Cherbourg de vues assez incroyables sur la mer. C'est le cas quand on est tout en proximité, je pense autour du casino qui sont juste à côté du studio, mais c'est le cas aussi quand on est beaucoup plus en retrait aux Fourches, à côté du lycée Millet. Quand on est dans les hauteurs des Fourches, on a des vues extraordinaires qui vont de Daumonville-la-Roque jusqu'à Fermanville. C'est absolument incroyable.
Et ça fait partie aussi de notre relation à l'environnement quand on habite quelque part. Le paysage, ce qu'on voit.
Le paysage, c'est très important. Effectivement, ça fait partie d'un attachement au lieu. Alors le paysage, c'est une notion très intéressante parce qu'elle est travaillée par beaucoup de gens, par des gens dont c'est le métier, les paysagistes. Elle est travaillée aussi beaucoup par les géographes. Ça, c'est les gens dont ça, c'est mon métier.
C'est votre
plutôt.
Boulot.
Voilà. Mais c'est aussi une notion très accessible à chacun. Chacun est capable de parler du paysage et chacun a sa propre perception du paysage. Moi, je rencontre des habitants des Flamands ou des Fourches qui c'est très beau, c'est quasiment de la poésie. Ils me disent la mer, ça change tout le temps. Vous voyez, la mer toujours recommencer. On n'est pas très loin de la poésie. Et en même temps, chacun, en fonction de sa situation, de son âge, est capable de parler du paysage et est capable d'avoir un avis sur cette question-là. Donc, je pense que, effectivement, ce lien au lieu, il est très fort chez les habitants. Là, on parle du paysage, on pourrait parler des arbres. Les arbres, c'est aussi... quand on n'a pas la chance d'avoir sa propre maison, on habite dans des HLM qui peuvent être entourés d'arbres. Tout à l'heure, je parlais des cités-jardins, je parlais de la rue de la Pérouse. Alors, la rue de la Pérouse, il y a une allée plantée qui est absolument magnifique. Mais il y a d'autres plein d'endroits dans le quartier des Fourches Arcos-Panel où il y a des très beaux arbres.
On va essayer de se projeter dans quelques instants sur France Bleu Cotentin dans peut-être le futur de l'architecture et comment est-ce qu'on pense, on imagine les choses, y compris avec les habitants. Quand on est en milieu urbain, on va faire ça dans quelques instants sur France Bleu Cotentin. Si vous avez envie de participer à la conversation, vous nous appelez 02 33 23 13 23. C'est votre nature. Jusqu'à 10h, on parle d'architecture, on parle de la relation avec la nature, avec la proximité. Comment est-ce qu'on se projette aussi dans l'architecture de demain, aujourd'hui, avec toutes les problématiques qu'on peut avoir. Catherine nous appelle de Tour-la-Ville. Bonjour Catherine.
Bonjour
Catherine.
Bonjour. Bonjour messieurs.
On a pas mal parlé d'immeubles, de HLM et du paysage qu'on pouvait avoir, qui était important notamment. Et vous aviez envie de réagir là-dessus, Catherine.
Ah oui, tout à fait, parce que moi, je suis pas du tout d'accord. Moi, j'ai un appartement au rez-de-chaussée. C'est très bien, il n'y a pas de souci, parce que je suis un peu âgée. Mmh. Mais alors, toutes mes fenêtres donnent sur le parking. Donc, dès que j'ouvre ma fenêtre, je tombe sur une voiture.
Ah oui, c'est ça. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, finalement, Florent Leroux-Villois, de ce qu'on pourrait envisager, réfléchir pour l'avenir? Est-ce que ça, c'était hier et il faudrait qu'on change ça? Qu'est-ce que vous en pensez?
Merci Catherine. Hein, c'est effectivement, c'est un exemple très, très intéressant. Juste, on peut savoir où vous habitez, Catherine?
Oui, résidence Médéric à Tour-la-Ville.
Résidence Médéric à Tour-la-Ville, oui, très bien. Effectivement, je parlais des cités jardins. À un moment, on a pensé le logement avec son jardin. Alors là, on est dans un exemple collectif, la résidence Médéric. Mais en tout cas, on pensait le bâtiment en lien avec son espace extérieur pour que les choses soient les plus agréables possibles. Et puis, à un moment, les choses se sont accélérées, ce qu'expliquait Emmanuel. Et il a fallu construire beaucoup de logements. Et en plus, les gens avaient beaucoup de voitures, ont toujours beaucoup de voitures.
Bien sûr.
Et donc, on a un peu perdu de vue, perdu le fil, effectivement, de cette qualité des espaces extérieurs. Alors qu'on ressent d'autant plus que quand on habite au rez-de-chaussée, parce qu'effectivement, on se retrouve à habiter sur une nappe
sur
de parking.
Bitume,
c'est le cas de Catherine.
Moi, j'habite sur le parking, quoi.
Ouais. Et donc ça, c'est effectivement des choses qui va falloir retravailler parce que on a fait vite, on a répondu à un besoin. Et aujourd'hui, effectivement, on le voit. Alors là, c'est l'exemple de Catherine qui habite au rez-de-chaussée. Ça s'est ressenti très fortement pendant le confinement puisque les gens devaient rester chez eux. Et donc, suivant qu'on puisse sortir sur un parking ou sur un endroit où il y a des arbres, c'est quand même pas la même histoire.
Ouais.
Donc effectivement, là, il y a eu. Des choses qui ont été faites vite et dont aujourd'hui on perçoit les défauts, ce que nous dit Catherine, c'est très, très intéressant. Et donc il va falloir trouver de la place pour mettre des arbres, trouver de la place pour apporter de la fraîcheur aussi, parce qu'on voit bien que les choses, ça chauffe, hein, faut pas se mentir.
Ouais.
Et donc repenser tout ça.
Que ça va pas se faire du jour au lendemain.
Ça va pas se faire du jour au lendemain. Il y a du travail, mais si on y croit tous, Catherine fait bien de nous alerter. Effectivement, moi je parle de beaux paysages, je parle de beaux arbres, mais il y en a pas partout.
Ouais.
Elle a bien raison. Vous avez bien raison, Catherine.
Non, parce que moi, quand je l'ouvre mes fenêtres, j'ai des odeurs de pots d'échappement. Ça n'a rien d'agréable. Ouais. Et puis en plus de ça, le parking est très grand, donc il y a plein de places vides.
Ouais.
Donc à la limite, je pense que en supprimant une ou deux, ça serait pas dramatique.
Oui, c'est ça. Vous, Catherine, si on vous demandait votre avis sur l'habitat, sur l'endroit où vous habitez, qu'est-ce que vous préconiseriez? Vous diriez quoi? Vous avez besoin de quoi?
Justement, d'un peu plus d'espace, de vue, quoi. C'est ça. Que ça tombe pas juste sur les voitures. Je vous dis, là, je peux presque toucher la voiture avec ma main quand j'ouvre ma fenêtre. Donc, c'est collé à la fenêtre. Voilà.
Donc, avoir un peu de verdure et un petit peu de paysage verdoyant.
Voilà. Bon. Parce qu'il suffit qu'il y ait une énorme voiture qui se mette devant ma fenêtre, le style grosse voiture là qu'on fait maintenant.
Mmh.
Et je vois pas le jour pendant toute la journée.
Ouais, c'est ça.
Ouais.
Ok, donc, Catherine. Merci de nous avoir appelé pour nous alerter.
Je t'en prie, c'est
merci,
moi qui
Catherine.
Vous remercie.
Bonne journée.
À vous.
Merci, Catherine.
Bon voilà, Florent Leroux-Villois, il y a un chantier qui se prépare, non?
Il y a un chantier qui se prépare, oui. Alors on y travaille déjà. Cette notion de cité-jardin, c'est à la fois une notion historique, mais c'est aussi une manière de penser la ville pour demain. Et donc effectivement, Catherine a bien raison, elle habite à rez-de-chaussée. Elle n'a pas vocation à forcément sortir son nez sur une voiture. On peut penser aussi... c'est très important dans l'habitat collectif aussi d'avoir des petits extérieurs. Alors il y a certains HLM qui ont des balcons, il y en a d'autres qui n'en ont pas. Et quand on habite au rez-de-chaussée, on a plein de bonnes raisons d'habiter au rez-de-chaussée parce qu'on est un peu âgé, parce qu'on a du mal à monter les escaliers. Mais c'est pas pour ça qu'on n'a pas le droit à son petit bout de nature.
Sur des parkings qui sont quelquefois trop grands d'ailleurs, bon, il y a les transports en commun aujourd'hui, qu'il faut développer sans doute un peu plus. On peut même imaginer mettre les voitures à l'extérieur des villes, un de ces quatre, et en tout cas, effectivement, agrandir la verdure autour de ces habitats où on habite à plusieurs. C'est aussi créer des endroits pour se rencontrer d'ailleurs.
Des endroits pour se rencontrer, puis repenser effectivement la place de la voiture dans ces HLM. Nous, on avait travaillé sur une autre résidence HLM à Tours-la-Ville, et quand on avait discuté avec les enfants de l'école qui étaient juste à côté, ils nous avaient dit est-ce que les gens, ils ont vraiment besoin d'aller jusqu'à la porte avec... Alors, quelquefois, c'est utile.
Oui.
Mais est-ce qu'ils ont tous besoin de se garer au plus près de la porte ? Quand on est au camping, on garde la voiture à l'entrée du camping, puis quand on est dans le camping, on y va à pied tranquillement. Et les enfants peuvent faire du vélo, tout ça. Vous n'avez qu'à faire comme on fait au camping. Vous mettez les voitures d'un côté, et puis celui qui a besoin d'amener ses courses, il peut venir quand même, mais il ne se gare pas devant la porte.
Bon.
Et donc, voilà, il y a des solutions. Si on y croit tous ensemble, on doit pouvoir y arriver.
Matière à réflexion. C'est votre nature. Dernier rendez-vous pour ce matin. Il va bientôt être l'heure de nous quitter. On est avec Emmanuel Fauché du CAUE, le Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement, et Florent Leroux-Villois, qui travaille à Cherbourg, en Cotentin, et à la communauté d'agglomération du Cotentin autour du renouvellement urbain, c'est-à-dire de la transformation urbaine, du renouvellement des immeubles, etc., de la rénovation, on va dire aussi, de certains bâtiments. On va essayer de se projeter en quelques minutes, on n'a pas beaucoup de temps, sur l'architecture du futur et comment on imagine, notamment la ville de demain. Alors est-ce que c'est ça, c'est plus de verdure, plus de relations avec... la nature, et puis également plus de proximité avec la production, notamment de légumes, par exemple,
Moi, je pense qu'il y a l'architecture est un objet. Et tout ce qu'on dit depuis ce matin, en fait, c'est le lien au sol. C'est le lien aux habitants et le lien au sol. Et en fait, le devenir de l'architecture, c'est finalement considérer qu'il y a un milieu sur lequel on a construit et dont il faut à nouveau se servir à travers un lien. Donc c'est le jardinage, c'est ce que disait Catherine tout à l'heure, c'est désimperméabiliser des parkings, retrouver la possibilité d'installer des arbres. Et quand on aura compris qu'on... en accompagnant le sol, qu'en le traitant, qu'en le considérant comme un élément du projet, ce qu'on n'a pas fait pendant des années, on va réintégrer en fait des possibilités pour les gens de vivre mieux les territoires dans lesquels ils sont, de retrouver des paysages finalement, et de retrouver une considération d'eux-mêmes.
Ça, tout le monde doit le comprendre, que ce soit les habitants comme les élus, tout le monde doit en être convaincu également.
Les habitants sont en attente de ça.
Ouais.
Et aujourd'hui, c'est les politiques d'accompagnement qui mettent en place, alors sur Cherbourg, vous travaillez là-dessus, mais qui doivent mettre en place ce genre d'accompagnement. En fait, c'est simplement redonner de la valeur aux habitants, faire en sorte qu'ils soient à nouveau reconnus dans leur position d'habitant et d'énergie sur un territoire. Ce qu'on n'a pas fait. On a répondu à des besoins, on a répondu à des questions techniques, mais on a oublié qu'on avait une valeur au-delà de celle-ci, c'est la valeur politique dont parlait Florent tout à l'heure, la valeur du lien humain, finalement, c'est la vie.
Et c'est donc ça qu'il va falloir recréer, notre relation à l'architecture, à toutes ces questions, et qu'on se les pose à nouveau et qu'on se dise qu'on peut avoir la main, et il faut nous la donner aussi.
Exactement.
La main, et ça, c'est à nos élus aussi de le construire. Merci d'avoir été là tous les deux avec nous sur France Bleu Cotentin.
Merci à vous, Emmanuel.
Merci beaucoup.
À très bientôt, avec plaisir.
Avec le